France Musique.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
L'excellence et la liberté du baroque à l'électro. Notre invité ce matin, le pianiste Francesco Tristano. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes avec nous en direct de Milan, un emploi du temps bien rempli. Concert donc hier dans la ville italienne et vous jouerez ce lundi 22 avril, dans quelques jours, au Théâtre de l'Athénée à Paris, pour la première fois dans ce lieu. Francesco Tristano, vous êtes luxembourgeois, vous vivez à Barcelone, vous voyagez beaucoup, vous avez étudié dans différents conservatoires, Paris, Bruxelles, la Juilliard School. Un concert à Paris dans un nouveau lieu, comment le vivez-vous ?
Ah ben j'ai hâte, surtout qu'il s'agit là du premier concert solo piano que je donne à Paris, je me rappelle pas du dernier. Je jouais souvent avec mon setup électronique, donc piano plus synthé, machine, ordinateur, etc. Et donc là il s'agit d'un petit retour aux bases, c'est-à-dire solo piano, quoi.
Un concert où vous interpréterez des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Friedrich Gulda et vos propres compositions. En parlant de Bach, un nouvel enregistrement aussi des suites anglaises. L'an dernier, c'était quelques concertos au disque Backstage. Vous avez ce projet en tête, enregistrer toute la musique pour piano de Jean-Sébastien Bach. C'est faisable ?
Oui. Alors, je sais pas, je vous dirai dans quelques années, mais c'est une idée un peu folle que j'ai eue il y a quelques années, puisque la musique de Bach m'accompagne depuis toujours. Et je me suis dit à un moment donné, pourquoi ne pas tenter une intégrale ? Alors, les labels voient ça avec difficulté, parce qu'il s'agit de productions dans le temps qui prennent peut-être 20-30 ans, alors que dans l'industrie du disque, il s'agit de faire des tubes, entre guillemets, on parlait des playlists, là, il faut des morceaux à placer dans les playlists, les intégrales ne sont pas vraiment plaçables dans les playlists, donc il s'agit de créer des nouvelles playlists d'intégrales. Et donc, pour cela, il me semblait une bonne idée aussi de créer mon propre label. Donc, c'est ça le nouveau chapitre, en quelque sorte. Un label que j'ai créé l'année dernière, avec une première sortie, pour l'instant, au Japon, en physique. Et on a rendez-vous avec notre distributeur à Paris dans quelques jours, pour fixer une sortie en France dans les semaines à venir.
Dans les semaines à venir. Bon, vous nous tiendrez au courant. Comment la musique de Bach évolue-t-elle en vous ? Est-ce qu'il y a des œuvres que vous voulez d'abord jouer plutôt que d'autres ?
Oui, bah, une fois qu'on se dit qu'on fait l'intégrale, tout le monde y passe. Hein. On ne peut pas vraiment faire d'exception. Mais disons que j'avais une prédilection à la base pour la forme de la suite. Donc, en l'occurrence, les suites anglaises, les suites françaises, les partitas, tout ça c'est déjà enregistré, donc il y a de fortes chances que ça sorte dans des intervalles réguliers d'ici, je sais pas, l'année prochaine par exemple. Et pourquoi la musique de danse ? Parce qu'il y a dans la musique de danse bien évidemment cette notion de groove, oui. qui m'est tellement chère. Bach, pour moi, c'est une musique très rythmique, très rythmée, très groovy. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant, surtout aussi avec les suites anglaises, qui ont parfois la réputation d'être un petit peu plus compliquées, plus intellectuelles. Mais finalement, elles ont été composées avant les suites françaises. Et je trouve qu'il y a quand même une espèce de rythme sous-jacent qui mène vraiment l'auditeur à groover dans le meilleur des cas.
Les suites anglaises, on a la série, donc vous en parliez, de danse traditionnelle, hein, courant, jig, sarabande, comme les suites françaises. Mais là, il y a un prélude en plus. Il n'y a pas grand-chose d'anglais, en fait.
Non, mais finalement, ces termes suite anglaise, suite française, je pense que Bach ne les a jamais employés lui-même. C'était plutôt des éditeurs qui, peut-être pour du marketing même, hein, suite anglaise, pourquoi pas. Alors, il y a effectivement quelques particularités selon la dénomination, mais c'est surtout le prélude qui est effectivement présent dans les suites anglaises, qui est extrêmement virtuose et souvent pour moi un peu le moment le plus difficile de la suite. Je pense que ça, Bach a expérimenté un petit peu avec ses formes, il a laissé quelques mouvements qui sont les mêmes dans toutes les suites, et puis selon les suites il change un petit peu le déroulé. toujours avec la mélodie infinie à la main droite et aussi à la main gauche, parce que finalement tout est en poly, j'allais dire polyrythmie, mais on n'en est pas encore là, mais en polyphonie, et avec ce prélude qui est très baroque aussi, finalement très orchestral.
Nous allons vous écouter Francesco Tristano, non pas dans l'un des préludes, mais la gigue de la suite anglaise numéro 2, 8h34 sur France Musique. Nous vous écoutons. De la suite anglaise numéro 2 en la mineur BWV 807 de Jean-Sébastien Bach, interprété par notre invité depuis Milan aujourd'hui, Francesco Tristano. Et donc ce disque qui est sorti au Japon sur votre label Into the Future, et il est donc prévu pour bientôt en France. Quelle est votre vision de l'objet, le disque physique? C'est important pour vous? Ça a quel sens aujourd'hui d'enregistrer?
Oui, ça l'a sans doute... Pas un grand sens. Enfin, le format physique est en voie d'extinction, mais moi j'y tiens énormément. Je pense que je suis un peu vieille école pour ça. Je trouve que quelque chose se perd avec tous ces formats digitaux en streaming. J'aime bien tenir l'objet dans ma main. J'aime bien l'insérer dans un lecteur. Alors un CD, bon, c'est encore une chose, mais le vinyle à la base, il y a un côté vintage, et même pour le son, je pense que c'est inégalé. Donc c'était important pour moi de commencer déjà par une sortie physique et non pas juste un morceau qu'on met en streaming. Mais évidemment, il faut que cela suive, parce que je pense que la jeunesse, par exemple, n'écoute plus du tout de CD. Mes amis n'ont même plus vraiment des lecteurs à la maison. Je ne sais même pas si on peut encore acheter des lecteurs dans les commerces. Je n'ai même pas regardé là récemment. Mais moi, j'y tiens. J'y tiens vraiment à ces anciens formats. Comme d'ailleurs la radio aussi. La radio, j'adore la radio. Enfin, la radio, c'est un format quand même qui est bien plus ancien, on va dire, que le format du podcast éventuellement ou certaines émissions en streaming. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose de vieille école comme ça qui me plaît.
Disque sorti au Japon, et justement, pour revenir à ce pays, en 2019 sortait votre disque Tokyo Stories, composition électronique empreinte d'influence nippone. Il y a même eu des vidéos lors de votre concert à la Scala à Paris. Quelle relation entretenez-vous avec la ville de Tokyo aujourd'hui? C'est encore un électrochoc quand vous y allez, parce que ça fait vraiment partie de votre vie artistique.
Oui, j'ai été accueilli par le public japonais. Je suis accueilli depuis 2001, donc ça fait plus de 20 ans que je m'y produis. Et le public japonais a un amour particulier pour Bach, justement. Mm. Et, c'est d'ailleurs dans une des salles à Tokyo, Oji Hall, que je présente depuis quelques années des intégrales dont j'ai joué. Les suites dont j'ai parlé tout à l'heure, aussi la clavier Übung, la première partie, donc avec les variations Goldberg, etc. Et donc c'est un peu aussi un hommage ou un remerciement, on va dire, à mon public nippon que j'ai voulu sortir d'abord au Japon, le Bach. Je ne sais pas pourquoi Bach est tellement populaire au Japon. Hein. Je pense qu'en Europe, souvent on dit. Ouais, je joue Bach. Ah oui, tu joues Bach. Bon, Bach, c'est quand même, je sais pas, c'est difficile ou c'est compliqué. Au Japon, c'est pas du tout comme ça. Et puis il y a Bach dans toutes ses formes au Japon. C'est-à-dire il y a le côté baroque historique avec les orchestres flamands ou néerlandais qui sont tournés constamment là-bas, et aussi des instrumentistes qui jouent Bach sur des instruments modernes comme moi. Mais pour répondre à votre question spécifiquement, donc oui, électrochoc, Tokyo reste une métropole hallucinante, mais c'est justement aussi les contrastes qui sont si intéressants. Je pense que c'est une ville qui est qui était déjà dans le futur il y a 20 ans quand je suis allé la première fois, et donc c'est un hommage à mon public japonais aussi d'avoir présenté mon label Into the Future dans cette ville futuriste qui est Tokyo.
Vous parliez de contraste, ça vous définit aussi. Vous avez toujours voulu explorer des mondes, de la musique baroque à la musique dite du XXe siècle, Ligeti, Cage, Berlioz, jusqu'à l'électro. Vous jouez sur les plus grandes salles du monde, qu'elles accueillent du public venant danser ou écouter religieusement ou découvrir, connaître par cœur. Bref, on est entre le dance floor, le club, la salle dite classique, un répertoire d'un ambitus très large et qui fait beaucoup de bien. On pourrait dire que justement Bach est le maître de tout cela, que c'est la référence absolue, en tout cas pour vous.
Pour moi, c'est le cas. Après, je pense que c'est assez subjectif, mais pour moi, Bach met un peu le fondement de la musique ou des musiques à venir, de les siècles à venir, notamment par l'harmonie, évidemment, mais aussi par le rythme. Il y a vraiment ce côté du basso continuo, le basso continuo qui est vraiment la base de la musique baroque, la base de la forme, même de cette forme de danse qu'elles sont constituées les suites. Ce groove, encore une fois, sous-jacent, qui est une espèce de moteur qui donne le drive de la musique. On enlève la basse dans Bach et puis il n'y a plus grand-chose. Enfin, il reste la mélodie, il reste la polyphonie, il reste les mélodies, etc. Mais le fondement est parti. C'est un peu la même chose dans la musique électronique de nos jours. Hein. On enlève le pied, comme on dit, le kick ou les basses, et on est dans une espèce de suspendu constant, et il n'y a plus rien, finalement. Il n'y a plus de fondement. Donc je retrouve un peu des caractéristiques dans les deux extrêmes. Et donc peut-être que Bach était le premier grand minimaliste, finalement.
Nous allons vous écouter Francesco Tristano, toujours dans la musique de Bach, mais cette fois-ci l'Allegro de son concerto pour piano en sol mineur BWV 1058. Vous êtes avec l'ensemble Backstage, dirigé par Léo Margue. Et là, il faut bien imaginer, en tout cas pour les auditeurs et auditrices, que Francesco Tristano joue du piano debout. Thank you. Sur le label Scala Music, les concertos pour piano de Jean-Sébastien Bach, en tout cas celui-ci en sol mineur, BWV 1058, cet allegro interprété par l'ensemble Backstage, dirigé par Léo Margue et Francesco Tristano. La dernière fois que je vous ai vu, d'ailleurs, Francesco Tristano, c'était sur la scène de la Scala. Donc, pour ces concertos de Bach, vous jouiez vous-même debout, ça bouscule nos habitudes, ça fonctionne bien, et là aussi, ça groove. Comment on l'explique, ça ?
Oui, bah, si les suites sont déjà du groove à l'état pur, les concertos, alors là, c'est la pop, on va dire la pop du baroque, quoi. C'est là où c'est le plus exalté, je pense. Les concertos de Bach sont très italiens dans l'inspiration, donc c'est pas très virtuose, pas aussi virtuose en tout cas comme les Italiens, mais ça s'approche énormément. Et je trouvais que, alors si les musiciens, je trouvais déjà chez les cordes qu'ils jouaient mieux debout. Donc j'ai toujours eu tendance à demander aux musiciens en formation de musique, enfin orchestre de chambre on va dire, de jouer debout, parce que je trouve qu'il y a plus d'élan, il y a plus de dynamique. Et donc à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que moi aussi je pourrais pas jouer debout ? Alors j'avais déjà l'expérience, quand je joue en club, etc., je joue pas assis évidemment. Alors pour le piano, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut mettre, donc impraticable, il faut surélever le piano, et alors ça dépend des hauteurs, parfois il y a un petit problème de logistique, il faut aussi arriver à soulever le piano qui pèse quand même 600 kilos. Donc il faut des messieurs très forts pour s'occuper de la scène. Mais les résultats, en tout cas, j'aime bien être à la même hauteur que les cordes sur scène, et qu'on groove ensemble, quoi. Donc finalement, être assis, ça freine un petit peu cet élan.
Et puis il y a des cadences de différents compositeurs dans certains mouvements de ces concertos. La compositrice japonaise Miharu Ogura, cadence aussi composée par celui qu'on connaît bien ici, Rodolphe Bruno Boulmier, et cadence de vous-même, ce moment de virtuosité un peu libre par les interprètes. C'est une façon aussi de faire vivre cette musique de façon actuelle, Bach et aujourd'hui.
C'est ça, c'est une proposition hein, de contextualiser un petit peu la musique de Bach dans notre époque. Alors les cadences dans Bach, il y en a très peu, elles sont très courtes, c'est des espèces de petites Einsatz comme ça. Et donc on a eu l'idée d'insérer des cadences écrites spécialement pour ce projet, donc c'est un peu la nouveauté. Mmh. À part le fait que je joue debout, mais bon, ça s'entend peut-être pas forcément de la même manière. Mais donc de demander voilà à trois compositeurs, dont moi-même, d'écrire du nouveau matériau à être inséré un petit peu comme une espèce de parenthèse contemporaine dans cette musique atemporelle.
Ouais, y a un homme qui vous a conseillé de jouer votre musique. Nous l'écoutons.
Si Ravel disait « on ne m'interprète pas, on me joue », ou Stravinsky considérait l'interprétation comme littéralement une trahison, je trouve que c'était aussi parce qu'il venait encore d'une époque où la plupart des musiciens, c'est des interprètes-compositeurs, et compositeurs-interprètes. Alors qu'au fur et à mesure que ça s'est développé maintenant, il y a de moins en moins des deux en même temps. Ce qui fait que quand des pianistes savent que je compose, ils s'en moquent. Je pense qu'il ne faut pas créer si on n'a pas envie, et puis on peut être créatif sans composer. Mais vous voyez, la plupart de ma vie maintenant, ça fait 55 ans que je fais du piano, c'est que les compositeurs ne me considèrent pas compositeur parce que je suis pianiste. Et donc le fait d'être les deux, c'est n'être aucun en fait.
La voix d'Emil Naumov, votre professeur, Francesco Tristano, qui là parle justement du fait d'être pianiste, interprète donc et compositeur. Je sais que c'est l'un de vos maîtres. Est-ce que combiner les sons électroniques avec le piano, c'est s'ouvrir? Est-ce que c'est grâce à lui, entre guillemets, que vous avez osé par rapport à ce qu'il vient de dire?
Alors, je compose sans doute grâce à lui, parce qu'il m'avait absolument encouragé. La toute première fois que je l'ai rencontré, c'était dans le cadre d'une masterclass de piano, où je jouais Bach, Ravel, etc. Et puis j'ai cru glisser quand même aussi le fait que je composais, mais un petit peu, peut-être pas en m'excusant, mais un
petit peu...
voilà, demi-mot. Et il m'a dit, alors là... tout de suite, joue-moi quelque chose. Enfin, il m'a tout de suite poussé, il m'a encouragé. Mmh. Et donc, je dois dire que c'est vraiment un peu grâce à Emile. Alors, peut-être pas la musique électronique, ça c'est une autre, peut-être une autre voie. D'accord. que j'ai explorée. Je pense qu'Emile n'a pas travaillé avec de l'électronique, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, il m'a encouragé. Et ce qu'il dit sur les pianistes interprètes, les pianistes compositeurs, c'est vrai. Hein, mmh. C'est-à-dire, on a du mal à... on a du mal à dire voilà c'est pianiste compositeur, mais finalement je pense que là il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a une espèce de creux peut-être au XXe siècle, et maintenant je pense que c'est reparti. Il y a beaucoup de pianistes qui jouent leur propre musique,
moins de frontières,
ou alors des compositeurs qui jouent leur propre musique aussi.
Le 14 mai, Francesco Tristano, vous serez ici, dans moins d'un mois maintenant, à la Maison de la Radio et de la Musique, avec une autre pianiste, Alice Sarah Ott, artiste en résidence cette année à Radio France. Concert diffusé en direct sur France Musique, donc le 14 mai. Satie, Frescobaldi, Debussy, vos compositions aussi, et puis un arrangement du boléro de Ravel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur ce concert, cet artiste, ce programme, cet arrangement de Ravel ?
Oui, alors c'est un arrangement que j'avais fait à l'époque pour notre tournée. Je pense que ça remonte à 2014. Et on ne l'avait pas enregistré à l'époque, alors que notre disque qui s'intitulait Scandale était une espèce de relecture des ballets russes, finalement, une espèce de relecture de Diaghilev, encore une fois au XXe siècle. Et je pense que le boléro aurait pu figurer sur ce disque. Mais on en a fait un peu notre morceau de bataille pour la tournée. Et donc, très content de présenter cette version à Paris dans un mois. J'avais commencé par une version à un piano, donc ça c'était un peu mon point de base, mais finalement le dialogue entre Alice et moi, c'est magnifique, ça marche, vraiment ça fonctionne. C'est-à-dire, moi je m'occupe de la rythmique, je m'occupe du groove, c'est peut-être pas surprenant, et Alice donc joue tous les instruments de l'orchestre qui défilent un après l'autre, et elle fait ça avec une aisance extraordinaire.
On attend ça impatiemment, rendez-vous le 14 mai.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Francesco Tristano depuis Milan. C'est l'heure maintenant de votre diaporama sonore. Comme à chacun de nos invités, nous vous faisons écouter quelques courts extraits choisis par nous ou par vous et vous réagissez le premier. Francesco Tristano, vous reconnaissez ?
Je reconnais, car c'est l'extrait que je vous avais envoyé, donc cher art de visée, baroque français. Pour moi, c'est une invitation au son, une invitation à l'harmonie, une invitation à une pureté. C'est un excellent choix pour commencer la journée, ça. Je pense.
Robert de Visée, d'ailleurs, et non pas Gérard.
Pardon.
Non, c'est pas grave. Compositeur de la fin du XVIIe siècle, et donc Xavier Diaz-Latorre, au Théorbe. Deuxième extrait, tout de suite.
Ryuichi Sakamoto, qui s'est éteint il y a un peu plus d'un an, qui est pour moi peut-être la plus grande inspiration finalement. J'ai eu la chance de le reconnaître, de travailler avec lui. Et ce morceau, A Thousand Lives, c'est un de ses grands classiques, on peut dire, la fin des années 70.
Et vous avez beaucoup joué avec lui ?
Non, pas beaucoup. On a fait un grand projet en 2017, où on jouait une semaine. Un hommage à Glenn Gould, justement, oui. Où il m'avait demandé de jouer du Glenn Gould, encore une fois un pianiste-compositeur, ou qui n'a pas été reconnu en tant que tel. Et j'avais aussi composé un morceau. Donc tout ça s'est sorti, et encore une fois, c'est sorti qu'au Japon. Un petit peu un marché niche. Mais donc pour moi, l'inspiration de Ryuichi Sakamoto est inexorable. C'est vraiment pour moi... Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui, je dois dire.
Dernier extrait.
Il s'agit ça pourrait être du Bach en version jazz, mais c'est du Goulda, du Friedrich Goulda, que je vais d'ailleurs jouer à l'Athénée lundi prochain.
Ce lundi 22 avril.
Voilà, Friedrich Goulda, un grand rebelle de l'histoire du piano du XXe siècle. Encore une figure qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il.
Ah, parce qu'il n'y a pas de frontières là encore.
Ah, tout à fait. Alors c'est un petit peu un exercice de style, mais alors quel bel exercice de style, c'est-à-dire c'est fait d'une manière vraiment virtuose. Friedrich Goulda, oui, qui voulait être jazzman alors qu'il était classique, qui jouait du Mozart devant un public de hard rocker. Enfin, il était toujours là où on l'attendait pas, et donc ça m'a inspiré aussi pour faire mon chemin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lundi, c'est dans une série de concerts de jazz que je me produis à l'Athénée. Alors
voilà,
que je joue pas vraiment de jazz. Oui, le jazz, moi, je sais pas. Alors que le jazz, c'est peut-être la musique qui a su s'inspirer de tous les courants, en fait. La vie, c'est du jazz, c'est un style de vie.
Rendez-vous donc ce lundi 22 avril au Théâtre de l'Athénée à Paris à 20h, Francesco Tristano. Et puis le 14 mai, ici à Radio France, avec Alice Sarah Haute et bien sûr vos deux disques Bach qui sont parus, qui vont paraître en France, au Japon, dans le monde. Merci d'avoir été avec nous ce matin, cher Francesco Tristano.
Merci à vous, Gabriel. Merci beaucoup.
À bientôt à Paris, à la technique aujourd'hui. Flora Sternadel, Julia Macarès, Juliette Porcher, ça c'est pour les attachés de production, avec la collaboration d'Anne-Lise Assada, Léa Gramusset et Nicolas Bichet. À la technique donc, Emmanuel Morse-Duncan et Youtou Diego Aclopez, et à la réalisation, Margot Page. La voix, mystère, la revoici.
Rajeunissez, d'un seul coup, soyez jeune, comme Mozart reste jeune, éteignez tout et écoutez un splendide quintette de Mozart.
C'était la voix de Philippe Solers. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous comme chaque matin. Je vous retrouve demain pour France Musique est à vous en direct entre 7h et 9h pour nous dévoiler ce que vous souhaiteriez écouter. Notre adresse francemusiqueestavous@radiofrance.com et notre répondeur au 01 56 40 66 40. Vos émotions, vos souvenirs de concerts, vos disques favoris, racontez-nous et nous les écouterons ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et bien dans quelques instants, ce sera En Piste.
À réécouter sur francemusique.fr.